l'heure adéquate pour récupérer l'oncle aîné, debout, campé, à l'entrée du cimetière ou devant l'église, les mains nouées sur sa casquette d'apparat. Pour les oncles, la conduite de la voiture se pratiquait à deux, et Paul ne se souvenait pas qu'ils eussent jamais dérogé à cet usage singulier. Même en la pleine force de l'âge, désormais, et ce depuis 11 ans, depuis l'achat de la languide Citroën Diesel vers sapin métallisé, chaque dimanche en fin de matinée, entre 11 heures et midi, les oncles dégourdissaient la voiture, on la démarrait, et elle vrombissait longuement dans le garage étroit dont les portes avaient été au préalable ouvertes au plus large. Une marche arrière et quelques manœuvres délicates se révélant nécessaires pour extraire le précieux véhicule de son étui et de la cour, directives mimées et injonctions vociférées se succédaient, l'un des oncles s'évertuant au volant, tandis que l'autre se plantait en sémaphore devant les cages à lapins en toutes circonstances et saisons. Seule la neige empêchait la cérémonie. Et encore fallait-il que la couche tombée fût assez sérieuse pour dissuader les coéquipiers intrépides. On n'allait pas loin, selon un itinéraire immuable, on se rendait aux limites de la propriété afin d'examiner les terres les plus écartées, et le cas échéant, bêtes et clôtures, d'un regard que la vigilance requise par la bonne conduite du véhicule, toujours à moins de 50 kilomètres à l'heure, ne privait qu'en partie de sa coutumière acuité. L'affaire était connue dans le pays. Le dimanche, entre 11 heures et midi, les oncles de Fridière dégourdissaient la voiture s'ils n'étaient pas passés sur le pont des Chèvres à 11h15 et sur la place à 11h20. On pouvait sonner le tocsin, la guerre était déclarée. Le canton se trouvait à la dernière extrémité. Un détail, enfin, ravissait les habitués et fortifiait auprès d'eux la solide réputation d'originose qui auréolait les oncles faussement jumeaux. Non content de se succéder au volant d'un dimanche à l'autre, Louis et Pierre n'auraient pour rien au monde renoncé à la compagnie de Lola. Elle trônait, magnanime, la truffe écrasée contre la vitre, à la droite du conducteur, tandis que le frère réduit au rôle de passager tenait le milieu de la banquette arrière. Annette s'accommoda de la Diane, et réciproquement, Annette n'avait toujours conduit que les voitures des autres, voitures d'hommes, de son père au début, de Didier ensuite, de Paul enfin. Elle s'efforça sans tergiverser et s'appliqua. Elle sut retrouver des réflexes qu'elle croyait oubliés, enfouis, tant ils étaient liés pour elle à ces soirées noires où elle ramenait à la maison d'un Didier les bêtés d'alcool, éructant des soliloques enragés quand ils n'avaient pas exigé, la repoussant sans ménagement en de pataudes empoignades d'officier lui-même, sous le prétexte que même dans cet état ahurissant, il resterait toujours meilleur chauffeur qu'elle. Il aurait pu être pilote, lui pilote de rallye ou de moto, ou d'avion, ou d'hélico, de bombardier, de n'importe quoi. Comme tous les hommes de sa famille, c'était dans le sang, ça s'apprenait, pas, il n'avait pas appris. On pouvait le faire souffler dans le ballon, ça serait pas la première fois ni la dernière. On pouvait toujours s'acharner parce qu'il avait 3 bières ou 10 ou 20 dans le coffre. On lui retirerait le papier, rose, il conduirait quand même, Annette savait. Avait su tout de suite quand, à Nevers, en janvier, elle avait été assise pour la première fois à côté de Paul dans la lourde voiture grise, que celui-là, l'homme de l'annonce, le doux, l'agriculteur qui avait avalé tous ses kilomètres de route pour la connaître, n'était pas de cette chapelle des fous du volant. Quelque chose, cependant, de ces tremblements anciens remontait, c'était irrépressible. Dès qu'elle prenait la place de l'homme dans une voiture, elle allait devoir, contrainte et forcée, enchaîner les gestes, les bonds, s'embrouillonner sans hésiter, dans l'ordre, la main ferme, la nuque souple, l'œil aux aguets, tout à la fois. Il faudrait devenir cette femme impossible qui n'existait pas, et l'épreuve de la conduite dénoncerait l'imposture, on serait confondu, convaincu de fausseté, écrasé de n'avoir pas, ouvertement, le droit d'être, ni là ni ailleurs. On serait annulé, mais ce jour de 14 juillet, dans la cour de Fridière, sur le chemin, sur la route bleue, la rutilance était telle, et telle encore l'exubérance des matins neufs, que la vieille nausée, si elle la saisissait, et elle l'avait saisie, une sueur grasse avait embrulé ses aisselles, ses paumes. La vieille nausée n'avait pas eu raison d'elle. Il y avait Éric, assis posté sur le mur avec Lola, les oncles dans le jardin, et Nicole en embuscade derrière la fenêtre de la cuisine. Nicole si véloce, au vu et au su de tous, inlassable et souveraine en sa panda immaculée. Il y avait Paul qui ne savait pas, ne pouvait pas et ne devait pas savoir. Paul qui voulait que ce soit simple, qu'elle conduise de nouveau, puisque, il le disait en riant, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, et dans ce pays on n'a pas le choix, et quand on a une aussi belle photo que sur son permis, on le laisse pas moisir dans un tiroir. Annette peinait parfois à se reconnaître sur cette photo de ses 20 ans, comme intimidée par la douceur tendue de ce visage qu'elle avait alors, de ses yeux clairs et grands, pas encore effarés, et de ce sourire sage et tiré sur sa bouche fraîche, Annette avait appris les bruits de la maison. Il y avait les bruits du dessous, les bruits de Nicole et des oncles, des sifflements dans la tuyauterie quand ils ouvraient ou fermaient un robinet, ou le chattement têtu de la cocotte minute, la machine à laver l'année, un salmigondi d'émissions de télévision montait du sol, faisant tapis, on reconnaissait les indicatifs, on était en haut, sur la 2 ou la 3, quand on errait en bas, de la 1 à...